La troisième calamité fut l'invasion des charretiers, qui engloutit la puissance déclinante du Gondor dans des guerres qui s'étalèrent sur près de 100 ans. Les charretiers étaient un peuple, ou une confédération de peuples, originaires de l'Est, mais ils étaient plus forts et mieux armés qu'aucun de ceux rencontrés jusque-là. Ils voyageaient dans de grandes voitures, et leurs chefs se battaient dans des chars. Soulevés, comme on le vit plus tard, par les émissaires de Sauron, ils lancèrent un soudain assaut contre le Gondor, et le roi Narmakil II mourut en les combattant au-delà de Landuin en 1856. Les gens de l'Est et du Sud du Rhovanion furent réduits en esclavage, et les frontières du Gondor ramenées à la hauteur de Landuin et des Emin-Muil tant que dura cette occupation. On croit qu'à cette époque, les spectres de l'anneau entrèrent de nouveau au Mordor. Calimétar, fils de Narmakil II, à la faveur de révoltes sévissant au Rhovanion, vengea son père en remportant une éclatante victoire contre les Orientais sur la plaine de Dagorlad en 1899. Ainsi, la menace fut un temps écartée. C'est sous le règne d'Arafant dans le nord et d'Ondoher, fils de Calimétar dans le sud, que les deux royaumes reprirent conseil ensemble après des siècles de silence et d'éloignement. Car enfin ils perçurent qu'un seul et unique pouvoir, une seule et unique volonté, dirigeait l'offensive qui s'abattait de toutes parts contre les survivants de Númenor. Et à cette époque, Arvedui, héritier d'Arafant, épousa Firiel, fille d'Ondoer, 1940. Mais aucun royaume ne put venir au secours de l'autre, car Langmar renouvela son assaut contre l'Arthédain au moment même où les charretiers revenaient en force. Cette fois, les charretiers passèrent en nombre au sud du Mordor, s'alliant aux hommes du Khand et du proche Arad. Et pris d'assaut au nord comme au sud, le Gondor fut bien près d'être anéanti. En 1944, le roi Ondoer et ses deux fils, Artamir et Faramir, tombèrent au nord de la Morannon, et l'ennemi se déversa en Ithilienne. Mais Éärnil, capitaine de l'armée du Midi, triompha sur lui en Ithilienne du Sud, écrasant les troupes du Harad qui avaient franchi le fleuve Poros. Se hâtant vers le nord, il rassembla tout ce qu'il put des débris de l'armée du Nord qui battait alors en retraite, puis ils tombèrent sur le premier campement des charretiers alors qu'ils célébraient et festoyaient, croyant le Gondor vaincu et le butin prêt à être cueilli. Éärnil prit le campement d'assaut et mit le feu aux chariots, et il bouta l'ennemi en déroute hors de l'Ithilienne. Une grande partie des fuyards périrent dans les marais morts. À la mort d'Ondoer et de ses fils, Arvedui du royaume du Nord revendiqua la couronne du Gondor en tant que descendant direct d'Isildur et époux de Firiel, seule survivante des enfants d'Ondoer. Sa revendication fut rejetée. Pelendur, l'intendant du roi Ondoer, eut la plus grande part dans cette décision. Le conseil du Gondor répondit « La couronne et la royauté du Gondor reviennent aux seuls héritiers de Meneldil, fils d'Anarion, à qui Isildur a abandonné ce royaume. Au Gondor, cet héritage n'est reconnu qu'au fils, et nous ne sachions pas qu'il en soit autrement en Arnor. » Arvedui eut cette réplique. « Elendil eut deux fils, Isildur étant l'aîné et l'héritier de son père. Pour ce que nous en savons, le nom d'Elendil figure encore en tête de la lignée des rois du Gondor, car il était reconnu comme le grand roi de toutes les terres des Dúnedain. Du vivant d'Elendil, ses fils se virent confier le gouvernement conjoint du Sud. Mais quand Elendil tomba, Isildur partit assumer l'autorité suprême de son père, confiant à son tour le gouvernement du Sud au fils de son frère. Il n'est pas dit qu'il abandonna la royauté du Gondor, pas plus qu'il ne souhaitait que le royaume d'Elendil fût à jamais divisé. Non seulement cela, mais dans l'ancienne Númenor, le sceptre passait à l'aîné des enfants du roi, homme ou femme. Il est vrai que cette loi ne fut pas observée dans les terres d'exil toujours en proie aux guerres. Mais telle était la loi de notre peuple, que nous invoquons à présent, puisque les fils d'Ondoer sont morts sans postérité. Cette loi fut adoptée à Númenor par Tar-Aldarion, le sixième roi, qui ne laissa qu'une fille. Elle devint la première reine régnante, Tar-An-Kalimei. Mais une autre loi avait prévalu avant elle. Atar-Elendil, le quatrième roi, succéda son fils Tar-Meneldur, bien que sa fille, Silmarienne, eût été l'aînée. Elendil était toutefois un descendant de cette même Silmarienne. À cela, le Gondor ne fit aucune réponse. La couronne fut revendiquée par Earnil, le capitaine victorieux, et elle lui fut concédée avec l'assentiment de tous les Dunedain du Gondor, puisqu'il appartenait à la maison royale. Earnil était le fils de Siriondil, fils de Kalimakil, fils d'Arceias, frère de Namarkil II. Arvedui se garda de réitérer sa demande, car il n'avait ni le pouvoir ni la volonté de s'opposer au choix des Dunedain du Gondor. Toutefois, ses descendants n'oublièrent jamais cette revendication, même quand leur royauté eut passé. Car l'heure approchait où le royaume du Nord ne serait plus qu'un souvenir. Arvedui fut en vérité le dernier roi, comme son nom l'indique. On dit qu'il lui fut donné à sa naissance par Malbeth le Voyant, qui dit à son père « Tu l'appelleras Arvedui, car il sera le dernier en Arthedain. Mais les Dunedain seront placés devant un choix, et s'ils choisissent la voie qui semble la moins prometteuse, ton fils prendra un nouveau nom et deviendra maître d'un grand royaume. Autrement, bien des souffrances et des générations se succéderont avant que les Dunedain se relèvent et soient de nouveau unis. » De même, au Gondor, il y eut seulement un roi après Earnil. Peut-être la royauté eût-elle été maintenue et de grands malheurs évités si la couronne et le sceptre avaient été unis. Mais Earnil était un homme sage et nullement arrogant, encore que, pour lui, comme pour la plupart des hommes du Gondor, le royaume d'Arthedain parut chose négligeable malgré le noble lignage de ses seigneurs. Il manda à Arvedui qu'il scindrait la couronne du Gondor suivant les lois et la nécessité du royaume du Sud. « Mais, dit-il, je n'oublie pas la royauté de l'Arnor, et je ne renie pas notre parenté, pas plus que je ne souhaite la désunion entre les royaumes d'Elendil. J'enverrai pour vous des secours quand vous en aurez besoin, dans la mesure de mes capacités. » Toutefois, il fallut longtemps avant qu'Earnil n'ait suffisamment assuré sa propre sécurité pour tenir sa promesse. Le roi Arafant, toujours s'affaiblissant, continua de repousser les assauts de Langmar, et Arvedui, quand il lui succéda, fit de même. Mais enfin, à l'automne 1973, des messages parvinrent au Gondor disant que l'Arthedain était à toute extrémité et que le roi sorcier s'apprêtait à livrer sa dernière offensive. Earnil mit alors son fils Earnur à la tête d'une grande flotte et, distrayant toutes les forces dont il pouvait se passer, les envoya au nord avec la plus grande célérité possible. Trop tard. Avant qu'Earnur n'eût atteint les havres du Lindon, le roi sorcier avait conquis l'Arthedain et Arvedui avait péri. Mais l'arrivée d'Earnur au Havre Gris suscita la joie et l'émerveillement, tant chez les elfes que chez les hommes. Sa flotte était si nombreuse et ses bâtiments si imposants qu'ils eurent peine à trouver leur mouillage, bien que le Harlond et le Forlond fussent aussi à pleine capacité. Et il en débarqua une armée toute puissante, avec tout l'armement et les provisions pour une guerre de grands rois. Telle fut du moins l'impression des gens du Nord, encore que ce ne fût là qu'un petit détachement au regard de l'ensemble des forces du Gondor. On loua spécialement les chevaux, car nombre d'entre eux étaient dévots de l'Anduin, montés par de beaux et grands cavaliers et par des princes du Rovanion. Círdan appela alors tous ceux qui voudraient bien se joindre à lui, du Lindon à l'Arnor, et quand l'armée fut enfin prête, elle franchit le Lûn et marcha sur le nord contre le roi sorcier de Langmar. Celui-ci, disait-on, s'était désormais établi à Fornost, qu'il avait rempli de choses maléfiques, usurpant la maison et l'autorité des rois. Dans son orgueil, il n'attendit pas l'assaut de ses ennemis dans sa forteresse, mais alla plutôt à leur rencontre, croyant pouvoir les repousser, comme d'autres avant eux, dans les eaux du Lûn. Mais l'armée de l'Ouest fondit sur lui depuis les collines du crépuscule, et une grande bataille se déroula sur la plaine entre le Ninuyal et les coteaux du Nord. Les forces de Langmar battaient déjà en retraite vers Fornost, quand le gros de la cavalerie qui avait contourné les collines les assaillit par le Nord et les mit en déroute. Alors le roi sorcier, rassemblant tous ceux qu'il put sauver de la débâcle, s'enfuit vers le Nord, cherchant à rallier son propre royaume d'Angmar. Avant qu'il n'ait pu gagner la sécurité de Carn Dûm, la cavalerie du Gondor le rattrapa, menée par Éarnur en personne. Au même moment, une force dirigée par le seigneur elfe Glorfindel arriva de Fandeval. La défaite de Langmar fut alors si totale qu'il ne resta plus un homme ni un seul orque de ce royaume à l'ouest des montagnes. Mais l'on dit qu'à l'heure de la défaite, le roi sorcier parut alors soudain, manteau et masque noir sur une monture noire. Tous ceux qui le virent furent saisis d'effroi, mais sa haine entière se porta sur le capitaine du Gondor qu'il chargea avec un terrible cri. Éarnur entendait l'affronter, mais son cheval ne put souffrir cet assaut et il vira brusquement et emporta son cavalier avant que celui-ci ne l'ait maîtrisé. Alors le roi sorcier éclata de rire, et quiconque l'entendit n'oublia jamais l'horreur de ce cri. Mais Glorfindel s'avança alors sur son cheval blanc, et au milieu de son rire, le roi sorcier prit la fuite et se perdit dans les ombres. Car la nuit tombait sur le champ de bataille, et il disparut, et nul ne vit où il s'en était allé. Éarnur revint à présent, mais Glorfindel, scrutant les ténèbres qui s'amoncelaient, dit « Ne le poursuivez pas, il ne reviendra plus dans ces terres. Sa fin est encore lointaine et il ne tombera pas par la main d'un homme. » Beaucoup se souvinrent de ces mots, mais Éarnur était furieux et ne pensait qu'à se venger de son déshonneur. Ainsi finit le sinistre royaume d'Angmar, et ainsi Éarnur, capitaine du Gondor, s'attira-t-il la haine suprême du roi sorcier. Mais de nombreuses années devaient s'écouler avant que celle-ci n'éclate au grand jour. Ce fut donc au temps du roi Éarnil, comme on le vit plus tard, que le roi sorcier s'échappa du Nord et revint au Mordor, où il rassembla les autres spectres de l'anneau dont il était le chef. Mais ce ne fut pas avant l'an 2000 qu'ils sortirent par le col de Kirit Ungol et assiégèrent Minas Ithil. Ils prirent cette tour en 2002 et s'emparèrent de son Palantir. Ils ne devaient pas en être chassés de tout le troisième âge, et Minas Ithil devint un endroit redouté, désormais connu sous le nom de Minas Morgul. Nombre de ceux qui habitaient encore en Ithilienne désertèrent alors ce pays. Éarnur était l'égal de son père en valeur, mais non en sagesse. C'était un homme de forte constitution et de tempérament violent, mais il ne voulait prendre aucune femme, car son seul plaisir était dans le combat ou dans l'exercice des armes. Ses prouesses étaient telles que nul ne pouvait rivaliser avec lui dans ces sports de combat qu'il affectionnait, et l'on eût dit un champion plutôt qu'un capitaine ou un roi. De fait, il conserva sa vigueur et son habileté jusqu'à un âge plus avancé qu'il n'était alors habituel. Quand Éarnur reçut la couronne en 2043, le roi de Minas Morgul le défia en combat singulier, raillant son adversaire de n'avoir pas voulu l'affronter dans la bataille du Nord. Pour cette fois, Mardil l'intendant contint la colère du roi. Minas Anor, principale cité du royaume depuis l'époque du roi Telemnar et résidence des rois, fut alors rebaptisée Minas Tirith, en raison de sa veille constante contre le pouvoir maléfique de Morgul. Éarnur ne détenait la couronne que depuis 7 ans, lorsque le seigneur de Morgul réitéra son défi, raillant le roi de ce qu'à la couardise de la jeunesse, il avait ajouté la faiblesse de l'âge. Alors Mardil ne put le contenir plus longtemps, et il se rendit devant la porte de Minas Morgul avec une maigre escorte de chevaliers. Aucun d'eux n'en revint jamais. On croyait au Gondor que le roi, piégé par son perfide ennemi, avait péri sous la torture à Minas Morgul. Mais nul n'ayant été témoin de sa mort, Mardil, le bon intendant, dirigea le Gondor en son nom durant de longues années. Or, les descendants du roi étaient désormais fort peu nombreux. La lutte fratricide en avait emporté beaucoup. Et depuis ce temps-là, les rois s'étaient montrés jaloux et méfiants de ceux qui se réclamaient de ses origines. Et ceux qui s'étaient attirés de tels soupçons souvent avaient fui à Umbar pour se joindre aux rebelles. Tandis que d'autres avaient renoncé à leur lignage, épousant des femmes qui n'étaient pas de sang nouménoréen. C'est pourquoi l'on ne put trouver un seul prétendant au trône dont le sang ait été pur ou dont le privilège aurait fait l'unanimité. Et tous étaient hantés par le souvenir de la lutte fratricide et savaient que le Gondor périrait si de telles dissensions devaient survenir une nouvelle fois. Ainsi les années s'allongèrent, l'intendant continua de régner sur le Gondor, et la couronne d'Elendil demeura dans le giron du roi Éärnil, dans les maisons des morts, où Éärnur l'avait laissée.